8h12 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est économiste et essayiste.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alain Minc.
Bonjour.
En visite à Rungis, face à la France qui travaille et qui se lève tôt, le président Emmanuel Macron a été interpellé sur sa réforme des retraites et il l'a justifié, Alain Minc, affirmant qu'il fallait travailler un peu plus longtemps pour bien financer le système, ajoutant que cela va aussi créer plus de richesses pour le pays. Est-ce que ces deux arguments, selon vous, justifie cette réforme ?
Il a dit quelque chose qui est une évidence, mais qui n'est pas dite assez souvent. Et il y a dans cette affaire beaucoup d'évidences qui ne sont pas dites. La France travaille moins que ses principaux concurrents. C'est une vérité. Si elle travaillait autant que les plus actifs de nos concurrents, notre produit intérieur serait supérieur. Premier élément, et il a raison. Deuxièmement, en réalité, nous savons que l'espérance de vie augmente, tant mieux, et que la démographie se dégrade malheureusement. À partir de ce moment-là, la question des retraites, elle se résout de trois manières. Première manière, on baisse les pensions, exclues. Deuxième manière, on augmente les impôts sur les particuliers difficiles. Ou sur les entreprises, c'est aller à rebours de la politique qui a été efficace et qui fait que le chômage est quand même tombé à un niveau incroyablement faible pour la France. Donc, plus que difficile et contre-productif, ou on retarde l'âge de départ en retraite. Voilà, ce sont des choses simples. Et puis, il y a une troisième chose qui n'est pas dite, que les responsables politiques ne peuvent pas dire dans une France aussi émotive et populiste.
De quoi s'agit-il ?
Mais qui est tout simplement, nous avons 3 000 milliards de dettes. Nous vivons à crédit. Nous vivons en payant des taux d'intérêt incroyablement bas, c'est-à-dire très proches de ceux de l'Allemagne. Et le monde entier nous regarde. Et pour le monde entier, la réforme des retraites est un symbole d'une capacité d'adaptation. À tort ou à raison, dans la vision qu'ils ont, ils n'entrent pas dans les détails, mais c'est comme ça. Si on ne fait pas cette réforme, notre taux d'emprunt augmente par exemple de 1%. 1%, je vais vous faire le calcul. C'est 2,5 milliards la première année, 5 milliards la deuxième, 7,5 la troisième, 10 la quatrième.
Là, c'est vertigineux.
C'est vertigineux.
Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on l'a fait parce que le monde nous regarde et aussi les marchés financiers.
Mais c'est les marchés financiers.
Ah bon,
mais
c'est eux qui disent que c'est la nécessité de la réforme des retraites.
Mais vous vous préoccupez de ce que pense de vous la banque qui finance votre achat d'appartement. Nous vivons dans cette situation-là. Alors, évidemment, avec l'atmosphère ambiante, le mélenchonisme régnant, l'absurdité vis-à-vis de l'incompréhension économique qui est propre à ce pays, c'est très difficile de dire « les marchés nous regardent, cette réforme est un geste extrêmement fort » à leurs yeux, et nous sommes obligés de le faire parce que nous portons nos 3 000 milliards de dettes.
Donc ça, à la main, c'est le véritable argument qui justifie, qui porte
cette réforme de retraite majeur, mais je comprends très bien que dans l'atmosphère éruptive qui est la nôtre, il ne soit pas facile pour les responsables politiques de dire ce qu'un observateur peut dire en toute ingénuité.
Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'on est en train de dire que rassurer les marchés financiers est au fond plus important que l'avis d'une majorité de Français et de mobilisation conséquente dans la rue.
Alors la manière de dire aux Français, c'est leur dire, si on ne rassure pas les marchés financiers, nous serons dans une situation qui voudra dire moins d'infirmières, moins de policiers, moins d'enseignants, moins d'aides-soignants, c'est-à-dire dans une vraie rigueur telle que nous n'en avons pas connue depuis les plans de rigueur d'il y a 30 ans. Ça c'est la vérité. Mais c'est vrai que le climat politique actuel, dont la mascarade parlementaire a bien été l'illustration, rend très difficile à un pouvoir politique de dire paisiblement des choses simples.
On va parler de cette mascarade parlementaire pour reprendre vos propos à la main, mais donc dans un pays qui a connu et qui connaît encore le quoi qu'il en coûte, on est en train de dire, mais attention, si cette réforme ne passe pas, moins d'infirmières, moins deux, alors qu'il y a eu un quoi qu'il en coûte, j'allais dire, qui a ruisselé aussi dans le pays.
Le quoi qu'il en coûte a été une bonne politique. La France s'est tirée du Covid mieux que quiconque. D'ailleurs, le changement sur le marché de l'emploi est fascinant. On entre dans le Covid à 7% de chômage et on ne parle que du chômage. On sort du Covid à 7% de chômage et on ne parle que des pénuries d'emploi, parce qu'il y a dans tous les secteurs pénurie d'emploi. Alors ça montre que le Covid a changé le marché du travail. Mais la politique qui a été menée par les pouvoirs publics a maintenu hors d'eau le système économique. C'est vrai. Donc il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Mais maintenant, il y a une fin à tout. Et le monde nous regarde et veut voir si nous sommes capables de siffler la fin du match. Et si nous ne faisons pas la réforme des retraites, ça veut dire que nous sommes incapables de siffler la fin du match, que nos taux d'intérêt augmenteront et que nous serons contraints à une rigueur budgétaire qui sera autant de malheur pour la vie quotidienne des Français.
Mais Alain, vous mettez en avant cet aspect financier et finalement de devoir faire cette réforme. Il y a aussi un argument qui a été beaucoup mis en avant par l'exécutif, celui de la justice. Une réforme juste. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut, avec une réforme des retraites, réparer certaines injustices, par exemple, sur les femmes qui vont pâtir de ce projet ?
Je crois que vous soulevez un point majeur. Ce qu'a dit le gouvernement est sympathique, respectable, mais un peu naïf. On ne peut pas, avec une réforme des retraites, effacer en une seconde des décennies d'injustice, en particulier dans la relation des femmes au travail. Et donc, il faut se dire qu'il faudra beaucoup de temps pour le faire, pour le corriger. Mais vous ne pouvez pas, juste au moment où vous déclenchez la retraite, effacer ce qui a été pendant un siècle, un demi-siècle, une injustice fondatrice.
Donc c'est de la naïveté de la part de ce gouvernement qui dit que j'ai elle est juste.
J'ai dit qu'il y a une part de naïveté, il n'y a pas que de la naïveté.
Bien sûr. C'est Emmanuel Macron qui est, si je puis dire, descendu dans l'arène, aujourd'hui interpellé sur la réforme des retraites, mais c'est aussi la Première ministre qui porte ce projet. Comment la trouvez-vous, Madame Elisabeth Borne, en tant que...
Écoutez, je pense qu'elle rend aux femmes de ce pays un immense service.
Aux femmes, oui.
Aux femmes de ce pays. Je veux dire, ce pays vivait avec à l'esprit le souvenir d'Edith Cresson à Matignon, souvenir douloureux, et le souvenir de la candidature quand même claudiquante de Ségolène Royal à la présidentielle. Maintenant, en regardant fonctionner Elisabeth Borne, personne ne peut dire qu'une femme est inapte à Matignon ou à l'Élysée. Donc je pense que de ce point de vue, quelle que soit la durée de son gouvernement, même s'il était censuré, elle a rendu aux femmes de ce pays un service considérable.
Et à l'Assemblée nationale, quels services ont rendu les insoumis au gouvernement ? Certains disent, et Laurent Berger ici même à votre place, à la main, que finalement, ils ont joué le jeu du gouvernement, empêchant tout débat. Et qui ne sont pas l'allié du mouvement social.
Je crois qu'au-delà de ça, dans un pays qui est soumis à des tensions populistes telles que celles que nous voyons, ce qui s'est passé à l'Assemblée est vraiment jeté de l'huile sur le feu. La part de spectacle indigne que ça représente pour des gens qui doutent déjà de la politique, c'était vraiment alimenter leur fantasme. En plus, venant d'un parti d'extrême gauche, supposé avoir une culture marxisante de la société, aller contre la volonté de ceux qui, cas un cas, expriment plutôt le monde des actifs, c'est-à-dire les syndicats, c'est aussi montrer que ce sont en rien des sociaux démocrate bien sûr, en rien des gens respectueux du jeu social, mais que c'est une version 21e siècle du léninisme pur et dur.
Ah mais donc, vous les avez rhabillés, là, c'est entièrement de leur faute. Le gouvernement n'a-t-il pas non plus une responsabilité en ayant limité les temps du débat ?
Non, mais attendez, sinon on aurait eu ce cirque pendant des semaines et des semaines. Je trouve d'ailleurs que le gouvernement a dit qu'il excluait le 49-3. Moi, je ne comprends pas ce mythe du 49-3. Le 49-3 est dans nos institutions. Il a été utilisé 25 fois par Raymond Barre et 25 fois par quelqu'un qui était tout sauf un autocrate, qui était Michel Rocard. Donc, c'est la règle du jeu et je pense même que le gouvernement s'est auto-limité en disant ça au départ.
Vous n'y voyez pas un geste soit d'autorité ou de faiblesse, d'ailleurs ?
C'est un geste parfaitement démocratique. Il existe la même chose en Allemagne d'une manière différente. En Allemagne, vous ne pouvez mettre à bas le gouvernement que si vous élisez à la même seconde un autre chancelier. Le système qui consiste à dire vous ne votez pas, mais vous pouvez virer le gouvernement, est quelque chose qui est établi par nos institutions et qui est démocratique. Donc le seul reproche que je fais au gouvernement, il n'y en a qu'un, c'est de s'être auto-censuré en disant pas de 49-3, comme si c'était une bombe. Mais qu'Emmanuel Macron, qui s'est souvent réclamé de Michel Rocard, pense au fait que le grand maître du 49-3 s'appelait Michel Rocard.
En miroir inversé des Insoumis, il y a Marine Le Pen qui apparaît à la main comme la meilleure opposante dans un sondage publié dans le JDD à cette réforme. Opposante raisonnable, est-ce que la stratégie de la respectabilité, comme on l'appelle aujourd'hui, a fonctionné ?
La question concernant Marine Le Pen n'est à mes yeux pas celle-là. Est-ce que Marine Le Pen est capable ou non de faire ce que Mme Meloni a fait en Italie ? Mme Meloni, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit « Nous sommes membres de l'Alliance Atlantique, fidèles à l'Alliance Atlantique. Nous considérons que l'Europe et l'euro sont notre avenir et nous savons qu'il ne faut pas faire de bêtises budgétaires excessive. Elle l'a fait en partie sous l'influence de son éminent prédécesseur qui est Mario Draghi, mais elle l'a fait. Et elle a fait qu'aujourd'hui, l'inquiétude à l'égard de l'Italie, même s'il y a des choses dans la politique italienne qui peuvent déplaire, n'existe pas. Je pense que la question devant laquelle est Madame Le Pen, a-t-elle la compréhension des problèmes du monde suffisante pour faire ce qu'a fait Madame Meloni. Le reste est secondaire.
Et quel spectacle à la main qu'a donné la famille politique que vous connaissez bien, la droite LR, Aurélien Pradier démis de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez les positions de cette partie de la droite dite sociale et en particulier de Monsieur Pradier ?
Je ne connais pas Monsieur Pradier, mais j'ai l'impression que n'est pas Philippe Séguin qui veut. Dieu sait si j'avais des désaccords avec Philippe Séguin, mais il exprimait une sensibilité avec grandeur. Nous étions en désaccord absolu parce qu'il était anti-européen, anti-Maastricht. Et je trouve étonnant que le Parti des Républicains découvre cette logique de la biologie qui est qu'une cellule adore se couper en deux, ça s'appelle la sissiparité. Mais à force de se couper en deux, il ne reste que des miettes de miettes de miettes.
Mais Éric Ciotti avait-il le
son
choix
boulot.
Il a fait le travail.
Éric Ciotti fait son boulot.
Mais elle habite où la droite à la main ? Comment expliquer que quelqu'un comme Aurélien Pradier et d'autres députés qui ont soutenu Valérie Pécresse avec son programme,
non, mais
65
loufoque.
Ans
Mais enfin, c'est loufoque. Je crois qu'il a parlé à un moment de la retraite, même au-delà de 65 ans. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Cela dit, l'électorat de droite, il existe. Mais il est chez Emmanuel Macron. Le chef, aujourd'hui, de la droite ne s'appelle pas Éric Ciotti. Il s'appelle Emmanuel Macron.
Bah alors, fermer la porte, il n'y a plus personne, c'est ça ? Il faut éteindre la lumière pour vous ?
Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a
mais
plus,
non, parce que cet électorat...
LR n'existe
non,
plus,
non,
pourtant
non,
il y a des
non.
députés,
il y a un, électorat
y a un maillage
droite.
Territorial.
Non, il y a un électorat de droite qui est aujourd'hui macroniste, mais Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, donc il y a un électorat qui existe et qui est en réalité sera à reprendre. C'est une évidence.
Par qui ? C'est la grande question.
Très grande question.
En visite hier, surprise à Kiev, le président américain Joe Biden a annoncé à la main de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles armes pour l'Ukraine. On attend tout à l'heure le discours de Poutine devant la Douma. Entre l'aide indispensable aux Ukrainiens et l'engrenage infernal qui étendrait ce conflit et qui inquiète tout le monde à la main, c'est une frontière ténue, dangereuse.
D'abord, cette affaire est gérée avec un talent, une intelligence et une expérience considérables par Joe Biden et son administration. Je veux dire, tout ça est calibré au cordeau. Quelle est, au fond, la réalité ? Tout le monde souhaite la victoire de l'Ukraine. Nous tous, évidemment. Face à cette monstruosité que les Russes en ce moment expriment. C'est quoi la victoire de l'Ukraine ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le retour aux frontières du 24 février ? Est-ce que c'est simplement le statu quo qui est déjà une immense victoire sur le plan militaire ? Ou est-ce que c'est le retour aux frontières de 1994, jusqu'en 2014, y compris le fait que par un hasard historique, la Crimée appartienne à l'Ukraine ? Car il faut quand même se rappeler les choses. Vous savez comment la Crimée est devenue ukrainienne ?
Rappelez-le.
Khrouchtchev, en 1956, qui était ukrainien d'origine, a fait cadeau de la Crimée à la République socialiste d'Ukraine, comme Staline, géorgien, avait fait cadeau de l'Abkhazie à la République socialiste de Géorgie, mais à l'intérieur de quelque chose qui est mort et qui s'appelait l'Union soviétique. Donc, imaginer que Poutine rendra la Crimée paraît, appelons les choses telles qu'elles sont, illusoire. Enfin, il y a une règle, et c'est là que les Américains sont extrêmement méthodiques et extrêmement intelligents, c'est que les règles de la guerre classique ne sont pas exactement les mêmes quand on mène une guerre classique avec une puissance nucléaire. Que font les Américains ? Et ils le font merveilleusement bien. Ils aident les Ukrainiens à se protéger, et en effet, ça est quelque chose d'admirable, mais ils ne leur donnent pas les moyens d'attaquer la Russie. Or, si on était dans une guerre conventionnelle, évidemment qu'on donnerait les moyens aux Ukrainiens d'attaquer la Russie. Donc, il y a, aux frontières de la Russie historique, il y a une espèce de protection qui est la protection nucléaire, et la question, c'est la Crimée. Donc, à la conférence de Munich, tout le monde a parlé, mais personne n'a dit la réalité. Tout le monde a dit, on souhaite la victoire
de l'Ukraine. Quelle est la réalité ?
Et la réalité,
c'est qu'on accepte, c'est qu'il accepte,
qu'est-ce que la victoire
accepte
de l'Ukraine ?
Des concessions.
Mais il ne peut pas. C'est pour ça que cette affaire va durer. Poutine n'acceptera jamais de rendre la Crimée, et ses éventuels successeurs, qui risquent d'être pires, encore moins, et Zelensky ne peut pas renoncer à un bout de son territoire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer ? Ça peut durer très longtemps. Vous savez, les Turcs ont envahi Chypre en 1974. Ça fait donc 48 ans. Il n'y a pas de cessez-le-feu. En Corée, il y a eu un cessez-le-feu, mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Donc, on peut avoir une solution qui se stabilise sans qu'il y ait un véritable traité de paix. La seule chose, c'est qu'au moins dans ces statu quo-là, il n'y a plus de mort. Mais c'est dans cet univers-là que nous sommes. Et ce que je dis là, tout... les diplomates, tous les responsables politiques le savent parfaitement.
Mais ne le disent pas.
Mais c'est très difficile.
Ce qu'a fait Biden
à Kiev était absolument parfait. Mais il ne va pas dire à Kiev, vous savez, la Crimée, jamais. Il le sait. Zelensky le sait. Mais c'est comme ça. Il y a des faits sociaux. On ne peut pas dire aux Ukrainiens qui se battent, renoncer à la Crimée.
Merci Alain Minc. Merci de vos réponses.